bonjour, ici Psycho Balado. Nous sommes le 10 avril 2024 et mon nom est Yves Dalpé, psychologue, et je poursuis la lecture de mon livre intitulé « L'infidélité n'est pas banale » avec le sous-titre suivant. Le cybersexe est la cocaïne des accros à la sexualité. En ce début du 21e siècle, la masturbation est étroitement associée à la nouvelle technologie de communication qu'on appelle Internet. En 1999, on estimait que la pornographie véhiculée sur Internet avait une valeur marchande de 1 milliard de dollars américains. Semble-t-il que la moitié des achats faits sur Internet seraient liés à l'activité sexuelle. Et les trois quarts des gens qui visitent un site érotique sur Internet se masturberaient en même temps. Internet serait la cocaïne des dépendants de la sexualité, selon l'expression de Schneider en 2004. Une cliente me consulte en larmes, à bout de ressources, devant le comportement de son mari. Depuis quelques années, au lieu de s'occuper des tâches familiales et de prendre soin de leurs enfants, son mari s'engouffre chaque soir au sous-sol devant son ordinateur. Il y passe la soirée complète, tout seul, et se couche longtemps après elle. Longtemps après elle, il s'amuse à des jeux vidéo, mais aussi il visite des sites érotiques en cachette. Cette activité compulsive lui prend environ 30 heures par semaine et son désir sexuel pour son épouse est en chute libre. Impossible de le raisonner, c'est plus fort que lui. Ma cliente, qui était pourtant folle de son mari, songe maintenant à la séparation, ce qui la plonge dans un état lamentable avec insomnie, anxiété, humeur dépressive, etc. Le cybersexe a pris tellement d'ampleur qu'il est maintenant l'un des facteurs menant à la séparation et au divorce. À la rencontre annuelle des avocats matrimoniaux américains en 2003, les deux tiers des 350 avocats présents ont affirmé qu'Internet avait joué un rôle significatif dans les divorces de leurs clients au cours de leur dernière année de pratique. Selon Griffin en 2001, un professeur de psychologie dans une université du Royaume-Uni, la dépendance à la pornographie véhiculée sur Internet fait vivre les mêmes réactions que la dépendance à une drogue, avec les mêmes caractéristiques. Ainsi, la dépendance à Internet affecte l'humeur tout en développant une tolérance, ce qui signifie que les sujets ont besoin d'augmenter progressivement leur implication pour atteindre les mêmes effets. Et en suscitant des effets de sevrage. Cela peut paraître étonnant, en effet, mais les dépendants du cybersexe peuvent vraiment se sentir tout à coup irritables, de mauvaise humeur, et même se mettre à trembler, etc., s'ils ne peuvent pas s'adonner à la sexualité par Internet. Ils souffrent réellement de sevrage. J'ai eu de tels clients et c'est vrai qu'on peut faire ce parallèle avec la dépendance à l'alcool et à la drogue. Même constat d'ailleurs avec ceux qui s'adonnent aux jeux compulsifs. L'humeur de tous ces dépendants, que ce soit l'alcool, la drogue, le jeu compulsif et le cybersexe compulsif, est très affectée par leurs activités obsessives. Durant ces activités, ils deviennent excités comme sur un high, ou encore ils se sentent plutôt tranquillisés par cette espèce de, bulle dans laquelle ils se réfugient. Ceux qui sont le plus à risque de développer la cyberdépendance sont les individus qui ont une faible estime d'eux-mêmes, ceux qui perçoivent leur image corporelle de façon très faussée, ils ne se trouvent pas beaux, ceux qui souffrent de dysfonctions sexuelles et ceux qui ont d'autres dépendances sexuelles. Évidemment, Internet est un moyen en or pour s'adonner à des compulsions sexuelles peu chères, sans danger d'être pris sur le vif dans des endroits publics et sans danger de contracter des maladies transmises sexuellement. D'après Griffiths en 2001, la forme d'implication sur Internet diffère selon les sexes. Alors que les hommes visitent davantage les sites érotiques, les femmes s'adonnent plus aux conversations érotiques. En fait, avec l'adoption d'Internet, une nouvelle sorte de relation extra-conjugale vient de naître et des liaisons sont entretenues en bonne et due forme par la voie d'Internet, alors que les deux conjoints d'un couple sont présents dans la maison sans que le conjoint trompé se rende compte de ce qui se passe juste à côté de lui. Ce qui peut commencer par de simples échanges de courriels inoffensifs peut se terminer dans des liaisons virtuelles, passionnées et intenses. Certains de ces amoureux virtuels finissent par se rencontrer pour consommer leurs désirs. J'en ai reçu en entrevue qui était mal pris avec ce genre de situation. Mais il existe des sites de rencontres sur Internet qui fonctionnent comme des magasins de bonbons. Les adeptes de ces sites apparaissent parfois comme des enfants qui ne sont jamais contents des cadeaux qu'on leur offre. Après avoir déballé la personne qui s'est offerte à eux de bonne foi, ces individus continuent indéfiniment leur magasinage dans le but de trouver un jour la perle rare et parfaite. Entre-temps, il semble que le processus les satisfasse passablement, non sans créer de la consternation autour d'eux. En fait, la communication électronique par Internet est devenue la façon la plus facile, la moins intimidante et la plus accessible pour rencontrer de nouveaux partenaires sexuels, ce qui porte certaines personnes à en abuser. La désinhibition serait l'un des facteurs les plus importants pour expliquer l'engouement des relations amoureuses sur Internet. Les gens se sentent en effet moins inhibés que dans la vie réelle et ils se révèlent plus vite. Ce qui peut prendre des mois et des années dans la vraie vie peut se faire en quelques jours ou en quelques semaines sur Internet. Ces individus n'étant probablement pas confrontés à la réalité de leurs interlocuteurs, ils s'abreuvent d'illusions et projettent leur univers de désir sans les bornes habituelles et nécessaires de la réalité. On nage dans l'irréel en évitant de souffrir les vraies limites des rencontres interpersonnelles avec des véritables personnes en chair et en os. C'est un peu la même chose avec la prostitution, comme nous allons le voir. Nouveau sous-titre, la prostitution, jetable après usage. Une de mes consœurs de classe à San Francisco avait été prostituée à Las Vegas. Elle nous racontait à l'époque comment les rencontres avec ses clients étaient en fait des jeux de rôle artificiels. Un jour, l'un de ses clients voulut la rencontrer dans la vraie vie. « Attention, lui avait-elle lancé, tu serais bien déçu. » Et elle refusa. Elle avait Elle savait la différence entre le rêve qu'elle lui rendait, entre le rêve qu'elle lui vendait et la réalité. Les vêtements, les décors, les rituels, les scénarios érotiques et l'attention toute centrée sur le client ne pouvaient se concilier avec une relation interpersonnelle réciproque réelle. Diverses recherches révèlent les motivations des clients de prostituer. Ainsi, certains clients sont attirés par la nature illicite et risquée de la rencontre sexuelle. D'autres ont recours à des prostituées pour avoir un plus grand contrôle sur leurs activités sexuelles. Ou encore, ils ont de la difficulté à former des relations amoureuses normales. Pour d'autres, c'est qu'ils veulent éviter les responsabilités inhérentes à toute relation amoureuse. Ou encore, ils fuient l'attachement comme la peste. Les clients de prostituées ne veulent probablement pas savoir que celles-ci proviennent généralement de milieux affectifs extrêmement défavorables. Toutes les recherches sur la prostitution à travers le monde arrivent aux mêmes conclusions concernant les prostituées juvéniles et aussi les prostituées adultes. En général, elles ont été victimes d'abus ou de négligence de la part de leurs parents, elles ont subi l'inceste, elles ont été violées durant leur enfance, leur scolarité a été perturbée, elles ont fait des fugues, elles ont vécu un éveil sexuel précoce. J'ai l'impression que la majorité des prostituées souffrent de troubles de la personnalité occasionnés par les mauvais traitements qu'elles ont subis dans leur famille d'origine. Un débat existe autour de la prostitution. Il est fort probable que la plupart des sexologues conçoivent la prostitution comme un service légitime à la population, étant donné que les besoins sexuels sont immenses et complexes. Toutes sortes de situations individuelles font qu'un nombre considérable de personnes n'ont pas accès à des partenaires sexuels et en souffrent. Les services sexuels rémunérés apparaissent donc comme des réponses intelligentes à des besoins humains complexes et légitimes. Et la perception négative de ce service pourrait s'expliquer par notre mentalité puritaine anti-plaisir. La prostitution n'a-t-elle pas toujours existé, argumente-t-on? On sait qu'elle était même souvent sacralisée et intégrée dans plusieurs temples des religions de l'Antiquité. L'ouverture d'esprit commande une libéralisation de la prostitution malgré ses dangers. On tient pour acquis qu'avec une telle acceptation de cette activité, un contexte plus sain favoriserait des échanges corrects avec des adultes consentants. Mon ami Ray Stubbs, sexologue américain de renom, a même publié un livre qui glorifie le statut de prostituée en mettant en lumière l'importance de ce délicat travail aux résultats bienfaisants. D'autres sexologues, comme Boloff en 1977, s'imaginent volontiers que le modèle psychothérapeutique de la sexualité en préconisant une vision psychopathologique de la prostitution. Le concept positif de la prostitution est sûrement de nature à scandaliser des chercheurs comme l'anthropologue Rose Dufour de l'Université Laval à Québec, qui a consacré 4 années à étudier les prostituées de rue. Ouvrez les guillemets, nous vivons une époque très particulière, de très grande misère sexuelle où la prostitution est extrêmement banalisée, alors que cette activité détruit la prostituée, fermez les guillemets, aurait-elle confié à un journaliste du journal Le Soleil. Quoi qu'il en soit, mon objectif n'est pas de trancher la question ici, mais de situer la prostitution dans le cadre de l'infidélité et forçait de constater que le recours à la prostitution ne fait pas plaisir à la conjointe ou au conjoint, trois petits points, et qu'il exprime la plupart du temps un problème auquel le couple doit faire face. La prostitution est une autre façon parmi tant d'autres de fuir la réelle intimité. Et ceux qui sont attirés par ce genre de solution ont probablement plus de problèmes liés aux relations interpersonnelles que la moyenne des gens. On peut extrapoler que les clients de prostituées se recrutent généralement, surtout chez les hommes qui perçoivent les femmes comme des objets de consommation en série et qui ont peu de compassion pour ce que ces femmes peuvent ressentir. Et souvent, chose curieuse, les hommes mariés infidèles par le biais de la prostitution ne semblent pas voir où est le problème. Un jour, un couple m'est arrivé en crise parce que l'épouse s'était engagée dans une liaison. Le malheureux mari, fort sympathique d'ailleurs, était dans tous ses états. Il avait peur de perdre celle qu'il chérissait par-dessus tout. Et tout en décrivant ses tourments, il se présentait comme un modèle de fidélité alors qu'il avait l'habitude de faire appel au service d'escorte pour le simple plaisir, point d'exclamation. Ce n'était pas pareil selon lui. Quel clivage, point d'exclamation. D'après moi, son épouse lui avait répondu par la bouche de ses canons à elle en vivant sa liaison. Ce mari se rendait donc au magasin pour se procurer des objets de plaisir jetables après usage, sans être conscient du rôle que venait jouer ce comportement dans sa dynamique personnelle et celle de sa relation conjugale. Son recours à la prostitution témoignait de malaise individuel et conjugaux, ce qu'il n'avait pas réalisé. Nouveau sous-titre, Ève, la vampire des cœurs et Don Juan, le sans-cœur. Il y a le sexe pour le sexe, comme il y a la séduction pour la séduction. Voilà plusieurs années, je recevais un couple dont le mari était un joueur compulsif. L'épouse, Ève, une femme sensible et intelligente, avait la patience d'accompagner son mari dans le traitement de cette compulsion du jeu. Un jour, elle lui démontra comment elle le comprenait bien en se citant en exemple à partir de son vécu antérieur. Elle-même. Elle avait été autrefois une séductrice compulsive alors qu'elle était mariée à un autre homme. Ce n'était jamais assez, révéla-t-elle. Pourtant, mariée à un homme qui l'aimait vraiment, il lui fallait continuellement conquérir de nouveaux cœurs. Elle avait toujours deux ou trois aspirants en réserve. À un moment donné, elle s'était liée à un homme mariée lors d'un long voyage d'affaires. Et en peu de temps, elle avait sommé de choisir entre elle et son épouse, provoquant ainsi une crise étourdissante. Pourtant, de retour de voyage, elle s'était réfugiée dans les bras de son mari en lui expliquant combien elle s'était ennuyée de lui. Elle l'aimait lui aussi et n'aurait jamais toléré qu'il la trompe. Elle ne se gênait pourtant pas pour décevoir tous ses amants qui espéraient trop d'elle. Ève racontait donc son histoire de façon émotive dans le cadre de la thérapie avec son nouveau conjoint, joueur compulsif, qui s'exclama spontanément pour détendre l'atmosphère, deux points, ouvrez les guillemets, autrement dit, tu étais une sorte de vampire des cœurs, point d'exclamation, fermez les guillemets. Elle eut l'humilité de reconnaître que sa compulsion relevait de la personnalité dysfonctionnelle borderline qu'elle avait traitée en 10 ans de thérapie. Elle avait besoin de toutes ses conquêtes pour combler un vide émotif énorme, comme son conjoint actuel avait besoin du jeu pour soigner ses propres carences affectives. Kafka, en 2000, classe le Don Juan dans la même catégorie que les paraphilies, c'est-à-dire ce qu'on appelle les perversions. Cette perspective fait voir comment les tombeurs de femmes, les tombeurs de femmes, les grandes séductrices et les dépendants de la sexualité ne sont pas aussi enviables qu'on le croirait parfois. Ce sont en réalité bien souvent des individus souffrants qui cherchent à soulager leur détresse par une sorte d'automédication sexuelle. Les Don Juan ont besoin de prouver leur valeur personnelle en faisant des conquêtes pour masquer leur profond sentiment d'infériorité. La plupart des Don Juan perdraient d'ailleurs leur intérêt pour les femmes qu'ils conquièrent immédiatement après avoir eu une relation sexuelle avec elles. Ce n'est pas aussi tranché selon moi, mais la réalité va dans ce sens-là et leur manque de considération peut être une dure réalité autant pour leurs amoureuses que pour leurs conjointes. Un client dans la cinquantaine me révéla son histoire de donjuanisme. Alors, tout au cours de, je le cite, là, et vous ouvrez les guillemets, « Tout au cours de ma jeunesse, je ne plaisais ni à mes parents, ni à mes frères, ni à mes sœurs. Constamment critiqué, je me sentais rejeté partout. À l'adolescence, je recherchais les émotions fortes. Je faisais de la vitesse en automobile, même sous l'effet de l'alcool. Je buvais pour remplir mon vide affectif. Puis, je suis passé à la drogue. Et enfin, j'ai découvert la sexualité dans laquelle je me suis vautré en allant d'une fille à l'autre jusqu'à ce que je découvre l'euphorie des amours en Syrie. C'était alors le summum, comme une shot d'héroïne. Le plaisir sexuel lui-même était fade comparé à la griserie des contacts, des conquêtes amoureuses. Je me suis ensuite marié, plusieurs fois d'ailleurs, et j'ai toujours trompé mes épouses, même si elles m'aimaient. Actuellement, trois femmes se disputent mon engagement. Je ne sais plus où donner de la tête. Je suis presque décidé à me séparer à nouveau, malgré le fait que j'abandonne encore des enfants. Je veux être libre pour aller avec qui je veux quand ça me plaît. Mais aucune de ces femmes ne se doute que je ne veux pas d'engagement amoureux. Toutes m'attendent et je ne veux décevoir personne. Si elles le savaient, elles m'abandonneraient et je ne veux plus jamais être abandonné. J'ai toujours été malheureux au fond de moi-même et je ne voudrais pas que mes enfants ne sachent pas mieux aimer que moi. » Fermez les guillemets. Malheureusement, je n'ai pu empêcher ce client de se séparer de sa famille. C'était plus fort que lui. Au moment des entrevues, il avait déjà dépassé le point de non-retour dans sa décision de se séparer. Pourtant, son épouse, que je trouvais très adéquate, l'aimait de tout son cœur et elle ne méritait certainement pas le sort qu'il lui a réservé en l'abandonnant avec ses enfants. Cet homme reste malgré tout un être chaleureux et très attachant. La question n'est pas là. Alors, je vais m'arrêter ici à cause de la durée. Et puis, nous pourrons poursuivre la lecture de mon livre dans environ 2 semaines. Alors voilà, c'était un nouvel épisode de Psycho Balado avec Yves Dalpé. Vous pouvez savoir un petit peu plus qui je suis, ainsi que ma collègue et conjointe Joanne Côté, en allant sur notre site internet www.dalpecote.com. Au plaisir!